Shalom, salam alaikum, dynamikata. Nous sommes au vendredi 31 mars 2023. Il sonne 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Canal FM à Lomé et ses environs ici, mais également un peu partout au Togo. Radio Courtoisie qui nous retransmet à Dapaon, Radio Sama FM à Baga à côté de Niamtougou, Radio Daoul qui fait de même à Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Nehom, mais ce n'est pas fini. Dans le monde entier, vous nous écoutez par le biais des canaux et autres médias numériques. C'est grâce aux techniciens. Aujourd'hui, c'est le duo Thomas Datevi et Jérôme Kodjo Akucha. Aujourd'hui, nous allons parler de coopération, développement avec deux hôtes de marque que le Togo attend incessamment ce 31 mars, pendant que les parlementaires de la zone Umoa étaient chez nous cette semaine. Nous allons parler également d'assistance humanitaire pendant que le Togo va au secours de la Turquie pour les victimes du séisme. Une bonne volonté comme EcoBank nous aide à équiper le CHU Cara en hémodialyse et d'autres sujets de proximité. Également, attirer notre attention que demain, 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril, mais la taxe sur les véhicules à moteur, le contrôle sera fait sur la TVM. Avant d'aborder tous ces sujets, hier, j'étais avec un ami qui a partagé avec moi une sagesse du pays Kabyé que je me permets de rendre un peu en français. La pensée dit ceci. Si tu réagis avec dureté face à un mensonge qui t'accuse injustement aujourd'hui, comment réagiras-tu face à une vérité qui t'accable demain? Encore une fois, si tu réagis avec dureté face à un mensonge qui t'accuse injustement aujourd'hui, comment réagiras-tu face à une vérité qui t'accable demain? Olivier Yaouadja, bonjour.
Bonjour Sasa, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vos invités.
À nous.
Bonjour à nos invités, si vous insistez. Bien. Et bonjour à tout le Togo.
Bien, je ne sais pas si j'ai bien traduit cette sagesse de Kabyé en français. Mais qu'est-ce que tu en comprends, toi et moi, Olivier?
Oh, je crois que le temps contient tout. Tout est dans le temps. Il faut faire preuve de patience et surtout d'intelligence devant toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, de ne pas donc vouloir se faire justice soi-même, alors que parfois vous pouvez être rattrapé par aussi vos erreurs. Donc, apprenons à faire preuve de patience dans tout ce qui nous arrive. Car le temps, c'est le meilleur juge de l'homme.
Ah, je ne savais pas que Olivier devient de plus en plus sage ainsi.
Ah ben, c'est que tu n'as pas remarqué depuis longtemps.
Germain, Soranapouli, Jasmin. À la FIA. La forêt vierge du Togo. Version Germain, pousse bien.
Oui,
surtout que les grandes pluies commencent.
La grande contribution pour atteindre un milliard.
Eh bien, hier, j'étais avec un ami à moi, un parent à toi, il est Kabyé, et il a partagé avec moi cette sagesse qui dit à peu près, si tu réagis avec dureté face à un mensonge qui t'accuse injustement aujourd'hui, comment réagiras-tu demain face à une vérité qui t'accable? Je ne sais pas si tu as déjà entendu la version originale et originelle en Kabyé.
Non, je n'ai pas encore.
Voilà un Ahunan qui apprend la sagesse Kabyé à un Kabyé.
Non, c'est une sagesse africaine, ce n'est pas Kabyé, n'est pas... Voilà, donc je crois que ça nous apprend à nous comporter aujourd'hui. Il y a demain. Donc il ne faut pas aller brutalement aujourd'hui. Au risque demain, une autre situation se présente devant laquelle vous êtes totalement désarmé, vous êtes coincé. Donc, c'est tout simplement l'autre version de dire il faut penser à demain dans tout ce qu'on fait.
Merci. Nous nous rattrapons avec un retard de 5 jours. hein, le 27 mars hein, est passé inaperçu, à mon niveau en tout cas, hein, au club de la presse. Hein, ce 27 mars nous rappelle, ou bien nous rappelait, qu'il y a 3 ans, nous perdions le confrère Dominique Essodina Alizio. C'est la première victime officiellement enregistrée pour la COVID-19. Eh bien, Dominique Essodina Alizio, nous nous rattrapons en ta mémoire depuis là. Et de Dominique, nous enchaînons avec nos pensées amicales et confraternelles à l'endroit de John Holonu Humpati, directeur de publication du journal Carrefour, qui nous a quittés le 15 mars 2000. Il en est de même à l'endroit de Aliro Moru Chakala, le directeur de publication du journal Courrier de la République, qui lui nous a quittés le 13 février 2021. Idem pour Lucien Djossou Mensan, du Combat du Peuple, qui a été également arraché à notre affection le 8 avril 2021. Et le tout dernier en date, Joël Kossi-Vignoriga, de Fraternité, qui lui nous a quittés le 7 mars 2022. Tous ses confrères qui nous ont quittés, qui étaient les habituels au Club de la Presse, au-delà de tous les journalistes connus ou inconnus qui sont partis, et également les confrères qui ont des difficultés avec la justice, avec quelques maladies ici et là. Olivier, c'est à tous ces confrères, à toutes ces consoeurs que nous réitérons nos pensées amicales et confraternelles.
Oui, bien sûr, nous réitérons aussi nos pensées pieuses à l'endroit de ces confrères et à l'endroit de leur famille surtout. Parce que les confrères sont partis, mais leur famille reste et demeure avec nous. Et comment ces familles-là vivent le deuil, une année après, 2 ans après, et comment donc ce vide qui a été créé dans leur vie est comblé? Est-ce que nous, qui représentons ou voilà, qui étions des amis de ces confrères, arrivons à combler ce vide auprès de ces familles-là? Donc, nous exprimons donc nos pensées pieuses à ces familles et à tous les confrères en difficulté. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, certains, face à la justice, certains ont été contraints à prendre le chemin de l'exil. Et que vraiment, donc, beaucoup de courage à ces confrères et que Dieu les assiste.
Merci. Avant de revenir sur le chapitre de coopération, développement, assistance et toute l'actualité qui a émaillé la semaine, je voudrais nous abordions ce sujet d'actualité. Il s'agit de l'immigration clandestine ou illégale. Ou, pour être positif, comment immigrer en toute légalité, sécurité et assistance. Nous nous rappelons tous que le 28 mars dernier, un incendie s'est déclenché dans un centre de détention pour migrants illégaux en partance pour les États-Unis d'Amérique. Et cet incendie avait fait 39 morts, 29 blessés. C'était dans la cité Ciudad Juárez, au nord du Mexique. Des drames similaires se produisent un peu partout et qui frappent les migrants illégaux ou clandestins un peu partout à différentes frontières terrestres, fluviales ou maritimes sur tous les continents. Si de tout temps et en tout lieu, les humains sont toujours passés d'un endroit à un autre sur la Terre, et si les déplacements des hommes, femmes et enfants ont toujours été un facteur d'enrichissement multiforme, aussi bien pour les personnes que les pays, il n'en demeure pas moins vrai que les migrations illégales et clandestines ont toujours causé et continuent de causer des drames. La solution consiste à se rendre dans son pays d'accueil en se conformant tout simplement aux dispositions légales et en se préparant méthodiquement. C'est ce que nous allons voir à présent avec une personne ressource qui est à nos côtés. Elle est partie du Togo vers les USA Et avec le temps, elle s'est spécialisée sur les procédures, sur les questions d'immigration au pays de Joe Biden ou de Donald Trump, si vous préférez. Notre invitée, c'est Madame Fafa Assignon. Bonjour, Madame.
Bonjour, Monsieur Sass. Merci pour l'invitation.
Tout le plaisir est pour nous de venir partager avec nous votre expérience. Vous avez été migrante, vous êtes partie du Togo vers les USA. Vous avez étudié, vous êtes spécialisée sur les questions d'immigration aux USA. Vous avez voulu nous en parler, c'est tout à votre honneur. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre personne en une, deux phrases, Fafa? Okay.
D'abord, je me présente, Madame Fafa Assignon. Je suis togolaise, j'ai immigré aux États-Unis après mes études, après le bac. J'ai immigré aux États-Unis, je fais plus de 20 ans aux États-Unis maintenant. J'ai fait mes études là-bas, je suis docteur en droit. Je me suis spécialisée en l'immigration et j'ai mon propre cabinet là-bas. Et tout ce que je fais, c'est avoir avec l'immigration, aider les gens à rester aux États-Unis, à avoir une bonne condition, leur carte de résident permanent, éventuellement une citoyenneté. Et aussi, je défends les immigrants au niveau de la justice, les gens qui sont en instance de déportation. Je les défends pour leur permettre de rester dans le pays, dans la légalité.
Donc, vous avez de la matière à offrir des prestations pour les Africains, dont des Togolais, qui souhaiteraient émigrer aux États-Unis d'Amérique.
En effet. Je suis revenue au Togo pour apporter quelque chose à mon pays. Je ne vis pas ici, mais je reviens de temps en temps et j'ai créé une agence ici, iVisa. Et le but de iVisa, c'est en fait d'aider les gens à faire les choses dans les normes. Parce que je me suis rendu compte que là-bas, j'ai des problèmes avec mes clients parce que à la source, l'information de base n'était pas la bonne. Alors, ils arrivent là-bas, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes qu'on aurait pu éviter si tout était fait dans la normalité dès le départ. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai créé iVisa pour aider tous ceux qui sont désireux d'aller étudier aux États-Unis comme moi ou de visiter, ou même ceux qui ont gagné à la loterie Visa et qui aimeraient immigrer aux États-Unis. Mes services sont là pour leur permettre de faire ce processus dans la clarté et dans la légalité surtout.
Alors, vos services, d'après ce que vous m'avez confié, portent sur le visa étudiant ou encore visa visiteur ou touriste, visa fiancé, mariage, visa investisseur, regroupement familial, demande de la green card aux USA ou encore accompagnement dans la procédure de la loterie visa ou encore demande de naturalisation de la citoyenneté aux USA ou encore demande de permis de travail aux États-Unis d'Amérique, de même que le service de traduction.
Oui, en effet, ce sont les services que iVisa procure à ces gens qui sont intéressés. On est pratiquement dans tous les domaines parce que pratiquement c'est ce que je fais. C'est toute ma carrière depuis 7 ans déjà que j'ai mon cabinet. J'aide les gens à atteindre leur objectif et à le faire dans la légalité surtout.
Alors, ça veut dire que si on passe par vous ou bien par vos soins, ou bien par votre agence ou votre cabinet, on peut aller aux États-Unis d'Amérique en toute légalité, en toute sécurité, avec toutes les garanties de faire aux États-Unis d'Amérique ce qu'on est allé chercher.
Oui, oui, exactement. Et puis, non seulement j'aide les gens à partir aux États-Unis, j'aimerais aussi que les gens qui sont aux États-Unis, qui arrivent là-bas, comprennent les lois de leur pays d'accueil. Parce qu'il y a ce problème aussi où les choses sont différentes ici par rapport aux États-Unis. Et quand il y a ce manque de compréhension, les gens se retrouvent dans des situations impossibles, difficiles. Donc, pour moi, ce n'est pas juste d'aider les gens à immigrer vers les États-Unis, mais aussi les aider à réussir aux États-Unis.
Voilà, Madame ou bien Maître Fafa Assignon, qui est avocate, son cabinet aux États-Unis d'Amérique, mais elle a créé ici une agence pour partager son expérience, mieux encore, offrir ces services-là à ceux des candidats pour divers motifs qui souhaiteraient aller aux États-Unis d'Amérique pour ne pas subir le sort de ces migrants clandestins qui ont péri dans cet incident, dans cet incendie au Mexique, ou bien qui périssent dans les océans ou qui vivent toutes sortes de misères. Mais Madame Fafa, vous m'avez confié que dans les heures qui suivent, vous allez repartir aux États-Unis d'Amérique. Mais comment est-ce qu'on peut vous contacter ici sur place pour en savoir davantage sur vos prestations.
J'ai mon agence ici à Lomé, c'est situé à Adidoadin. J'ai un représentant ici, mais aussi il y a des d'entretiens que je fais avec mes clients à partir de Zoom ou WhatsApp pour pouvoir leur parler s'ils veulent vraiment avoir des conseils directement de moi. Mais l'agence est ici à Lomé. Le numéro pour l'agence, c'est le 36 24 79.
Merci, Fafa. Sauf que, généralement, quand on aborde ces questions, les critiques qui nous viennent souvent à l'endroit de vous, c'est que vous encouragez l'évasion intellectuelle de nos pays africains. Vous encouragez les gens à partir pour aller vivre aux États-Unis ou bien ailleurs, alors que c'est nos jeunes pays qui sont encore vierges, qui ont besoin de la matière grise, tant plus que c'est nos pays qui ont financé les études de ceux qui sont cadres aujourd'hui et qui veulent partir. Fafa, qu'avez-vous à répondre à cela?
Monsieur Sass, oui. En réalité, je m'attendais à cette question. Ce n'est pas une fuite de cerveau. Ce n'est pas une fuite de cerveau. En fait, c'est pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Et si vous prenez mon exemple, je suis là au Togo et j'apporte quelque chose à mon pays. Quand bien même je ne suis pas ici installée au Togo, le peu que je peux, je l'apporte à mon pays. Donc, dans cet esprit-là, je sais que les gens iront chercher la meilleure éducation, vraiment la meilleure éducation au monde, c'est l'éducation américaine, aller chercher cette éducation-là et revenir au pays et apporter le peu qu'on peut. Petit à petit, toute contribution pourra faire développer notre pays. Donc, l'intention, c'est pas une fuite de cerveau, envoyer tous les cerveaux au pays de l'oncle Sam, non, mais c'est d'aller chercher quelque chose que personne ne pourra nous prendre, qui est la connaissance. Une fois qu'on a cette éducation-là, quel que soit là où on est dans le monde, personne ne pourra prendre cette éducation-là et on pourrait revenir au pays et implémenter ce qu'on a appris du blanc et implémenter ça à notre pays pour avoir un développement sustainable.
Merci, Fafa. Rassurez-vous, je ne vous juge pas, c'est juste un constat. Et l'objet de votre présence ici, c'est de nous dire que s'il y a des candidats pour divers motifs qui veulent aller aux États-Unis, il vaut mieux s'y prendre de la façon la plus adéquate, arriver, faire ce qu'on veut et ne pas être pourchassé comme un rat, comme un chien. Nous avons été rejoints par Thierry Kwame Afanoukoué. Bonjour.
Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Alors, serais-tu tenté pour une raison ou une autre d'émigrer aux États-Unis d'Amérique?
Oui. Pourquoi pas? Comme Madame Fafa venait de le dire, je crois que il y a des choses à apprendre des États-Unis, tout comme de l'Occident, et ça pourra nous aider à participer au développement de notre pays, surtout que nous sommes en voie de développement, donc il faut de ressources humaines, il faut de la potentialité pour développer, pour construire notre pays. Donc c'est très important de poursuivre les études, peu importe l'âge, on peut continuer toujours par apprendre et être diplômé et contribuer à sa manière, à sa façon, au développement du pays.
Merci. Bon, si je puis me permettre, c'est après s'être bien formé là-bas, aux États-Unis, au Canada ou en Europe, revenir, parce que le Togo, l'Afrique, nous sommes encore des pays vierges. Nous avons besoin non seulement des bras valides, mais des têtes bien faites et bien pleines. Et ça va remonter. Tu es d'accord avec moi?
Oui, tout à fait. Il faut revenir. Et Madame fait bien de revenir périodiquement. On espère qu'elle reviendra s'installer définitivement, donc avec le temps. Et maintenant, moi, je voulais avoir quelques conseils. Quelle est la mauvaise manière d'aller aux États-Unis? Qu'est-ce que vous déconseillez aux gens de faire quand ils veulent aller aux États-Unis?
D'abord, oui. Fafa? D'abord, pour aller aux États-Unis, il faut avoir un plan. Est-ce que c'est pour visiter? Est-ce que c'est pour rester? Est-ce que c'est pour éduquer? S'éduquer. Et puis, en plus, il faut le faire dans la légalité. Être illégal aux États-Unis est vraiment difficile. Ça vous met dans des conditions vraiment difficiles. Alors, il faut le faire dans la légalité. Okay? Je sais qu'il y a des agences, des gens là qui veulent bien aider les gens à partir et ils le font sans savoir vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Donc, la meilleure façon, c'est de trouver quelqu'un qui sait ce qu'il fait et de le faire dans la légalité. Par exemple, quelqu'un qui va aux États-Unis pour visiter. La loi dit, lorsque tu y vas pour visiter, tu visites et tu reviens. Okay? Mais une personne qui a en tête d'aller rester aux États-Unis ne devait pas appliquer pour un visa visiteur. C'est une violation de la loi si cette personne-là arrive aux États-Unis et décide de rester. Donc, il faut le faire dans la légalité et il faut avoir son objectif en tête, ce qu'on veut faire et partir du bon chemin.
Merci. Je retiens pour l'essentiel qu'avant d'aller aux États-Unis d'Amérique, il faut avoir un plan, une idée dans sa tête et faire les formalités comme la législation américaine le prescrit. Et ainsi, vous irez vivre sans trop de problèmes. Nous allons avancer, mais y revenir sous le coup de 12 heures. Si vous le souhaitez, hein, vous pouvez appeler le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75 pour émettre vos avis sous forme de commentaires ou bien poser des questions sur ce sujet ou bien les autres que nous allons aborder, comme la coopération, développement, ces visites que nous attendons incessamment. Il s'agit de M. David Malpass, le président de la Banque mondiale, qui est attendu dans les heures qui suivent au Togo, et également de Madame Chrysoula, le nom un peu difficile, je vais y arriver, Madame Chrysoula Zakharopoulou, qui est secrétaire d'État française, entre autres à la francophonie et à la coopération internationale. Voilà les deux personnes, les deux personnalités qui vont arriver chez nous aujourd'hui, qui seront jusqu'à demain. Des journaux comme l'Union nous dévoilent l'agenda de David Malpass, tout comme de Madame Chrysoula Zakharopoulou, qui, entre autres, se rendra à l'Institut français de Lomé pour rencontrer les acteurs et les bénéficiaires du programme culturel Togo Créatif. Ce programme qui vise à accompagner la création culturelle togolaise et à mettre en valeur le patrimoine du Togo. C'est un programme, c'est un projet de la délégation de l'Union européenne au Togo, porté par l'Institut français du Togo et le Goethe-Institut. Olivier Adja, le président de la Banque mondiale, tout comme la secrétaire d'État française Chrysoula Zakharopoulou, les deux qui sont attendus incessamment chez nous ici à Lomé au Togo.
Oui, bien sûr. Le Togo, en tout cas, vous savez que nous sommes un pays d'accueil et un pays ouvert aux opportunités. Et David Malpass, qui est le président de la Banque mondiale, arrive. C'est un grand honneur. Il vient du Niger où il est passé aussi en s'entretenir avec les autorités du Niger sur des projets de développement et d'investissement. Donc, il arrive dans notre pays avec une délégation donc de la Banque mondiale. Et il y a tout un programme qui a été concocté autour donc de son arrivée, des rencontres avec les premières autorités de notre pays, des échanges avec voilà donc le secteur ou les opérateurs économiques, le secteur économique de notre pays. Donc ce sont des opportunités que le Togo donc peut saisir ou va saisir, ou ce sont des occasions qui nous permettent quand même d'échanger avec les personnalités et du monde économique. Et au niveau diplomatique, vous l'avez annoncé, et il y a aussi une représentante ou une ministre de la France qui arrive. Certainement, c'est des questions diplomatiques qui seront abordées. Donc, nous pouvons que leur souhaiter la bienvenue dans notre pays et attendons à ce que nous puissions être éclairés, mieux éclairés sur les sujets qui seront abordés, les questions qui seront au menu donc de ce séjour, pour que nous puissions aussi être informés et savoir que dans ce secteur, notre pays est engagé dans un programme-ci. Et voilà ce que ça va rapporter au pays. Parce qu'on parle du panier de la ménagère qui s'est beaucoup appauvri durant ces 3-4 ans de crises répétées, Covid, guerre, etc. Donc, il faut maintenant qu'au lendemain de ces crises, nous puissions travailler à à reprendre ou à travers la croissance de notre pays, puisque ça doit réjaillir aussi sur le Togolais lambda. C'est le souhait de tout le monde.
Germain Sohuna, nous savons que le Togo a des partenariats bien poussés aussi bien avec la Banque mondiale que la France. Pour la Banque mondiale, si je ne m'abuse, il y a un total de 18 projets en cours actuellement avec des extensions prévues. Pour la France, on n'a pas le temps de décliner tous les chapitres. Et d'ailleurs, dans des communiqués émis par la présidente de la République, on a une idée des sujets que le chef de l'État et les autorités togolaises vont aborder, aussi bien avec David Malpass qu'avec Chrysoula Zakharopoulou.
Oui, c'est une très bonne chose pour notre pays que ce sommet vienne, surtout la Banque mondiale qui est le banquier des États et qui a le Togo comme un bon élève entre guillemets, le Togo qui était régulièrement, qui occupait une place assez intéressante dans le classement Doing Business qui a cessé de paraître, mais des réformes donc encourageantes dans ce pays qui font qu'aujourd'hui il a décidé d'aller au Niger et au Togo. Ça fait plaisir, il est déjà là, je pense, sur le coup de 10 heures. À midi, il va rencontrer les membres du gouvernement. Il sera au port de Lomé dans l'après-midi. Demain, je crois qu'il sera à l'université. Donc, un calendrier assez bien chargé. On attend, comme l'a dit Olivier, des annonces fortes, et surtout pour notre pays. Et des réformes ont été engagées. Aujourd'hui, ces efforts sont mis à rude épreuve du fait de la pandémie, de la guerre en Ukraine. La vie est chère. On parle d'une remise d'engrais aussi qui se fera au port de Lomé. Et je pense que l'agriculture togolaise en a besoin, en attend donc de voir les retombées après cette visite-là. Et côté français,
un peu de volume.
Côté français, nous savons que la France est un partenaire traditionnel. Malgré les petites difficultés de ce pays dans une bonne partie de l'Afrique, la France tente de maintenir donc cette coopération-là. Et donc le fait que cette secrétaire d'État arrive chez nous est une bonne chose, en attendant de voir les annonces qui seront faites, surtout par rapport au nouveau modèle de partenariat décrit par le président Macron il y a quelques semaines. Espérons que des annonces fortes aussi dans ce sens seront faites ici à l'OMI.
Annonces fortes, je n'en doute pas, sauf que Thierry, comme Olivier l'annonçait déjà, ce que le Togolais d'Arepé ou bien de Kui ou bien de...
Lama
attente, c'est que toutes ces annonces fortes-là se traduisent par l'amélioration du quotidien.
Oui, tout à fait. Je crois par rapport à la visite de la secrétaire d'État Chrysoula, c'est ça? Je crois qu'elle est là pour permettre à notre pays de renforcer son système sanitaire. Je crois qu'il y a deux hôpitaux, deux CHU qui sont retenus, qui seront accompagnés en termes de modernisation. Si je ne me trompe, il y a le CHU Campus. Je crois que j'étais dans les locaux de cet établissement sanitaire la semaine dernière où le directeur disait qu'il y aura des travaux de rénovation, mais je ne savais pas que c'était en lien avec la visite de la secrétaire d'État française. Et il y a aussi le CHU et CARA qui sera rénové. Je crois que notre quotidien ou ce que nous disons tous les jours, c'est que on puisse renforcer notre plateau technique, que nous puissions disposer d'établissements sanitaires modernes afin que nous soyons véritablement pris en charge quand nous tombons malades. Nous attendons de voir, comme vous l'avez si bien dit, une chose est d'annoncer les travaux de modernisation, mais à terme, est-ce qu'il y aura un changement dans la prise en charge des patients. Nous attendons de voir ce que ça va donner et nous osons croire que ça serait un pas de plus pour notre pays. Donc nous appelons d'ores et déjà ceux qui seront en charge d'exécuter ces travaux de modernisation de ces deux hôpitaux importants dans notre pays de faire preuve d'abnégation et pour que les travaux soient conduits véritablement à terme au bénéfice des Togolais que nous sommes quand nous tombons malades, que nous soyons rassurés qu'il y a de quoi à nous prendre en charge. C'est très important. Alors, par rapport au monsieur de la Banque mondiale, je crois, comme Jamel l'a dit, il doit être déjà dans nos murs. Je crois il y a des rencontres qui sont prévues au haut niveau avec le chef de l'État. Il y a des annonces également, vous l'avez si bien énuméré. Il y a déjà un certain nombre de programmes sur lesquels la Banque mondiale nous accompagne. Et il ne faut pas aussi perdre de vue le fait que la Banque mondiale est l'un des partenaires financiers qui les plus importants dans notre pays. Donc, on attend de voir tout ce que cela va nous rapporter. Il faudrait que ces nouveaux fonds qui seront injectés ou qui sont déjà injectés puissent changer quelque chose dans ce pays.
Merci. Quand on se réfère au communiqué de presse émis par la présidente de la République, on découvre que aussi bien avec David Malpass qu'avec Chrysoula Zakropoulou, le Togo va aborder, entre autres sujets, l'insécurité, le terrorisme dans la sous-région. Pour ce terrorisme, nous avons besoin d'un partenariat vraiment agissant. Ainsi, lorsqu'elle était à Accra, Madame Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, a annoncé ce programme d'une enveloppe de 100 millions de dollars américains au bénéfice des pays comme le Bénin, le Ghana, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Togo. C'est pour appuyer nos États, nos pays, davantage dans la lutte contre le terrorisme. Et Olivier, cette début de semaine, Lomé a également accueilli les médiateurs de la République de l'espace UEMOA qui ont débattu de ce sujet, à savoir qu'est-ce que les médiateurs de la République peuvent apporter en termes de renforcement de la lutte contre le terrorisme. À la fin de leurs travaux, ils ou elles sont allés voir la Premier ministre, sûrement ils vont soumettre leurs recommandations, résolutions au président de la République. C'est dire que la lutte contre le terrorisme, c'est une urgence d'actualité.
Oui, bien sûr, c'est une urgence d'actualité. Et ça, surtout, ça exige de nous tous un engagement. Quand on parle de terrorisme, ce n'est pas une question seulement qui concerne les autorités ou le gouvernement, mais c'est tous les citoyens qui doivent s'engager. Donc, nous voyons déjà les entités, les institutions se réunir pour réfléchir à comment combattre ce fléau. C'est un véritable fléau. On ne sait pas comment ça a commencé, puisque, bien sûr, les gens nous diront que c'est venu du nord de notre pays, du Bénin, du Mali, j'ai dit du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, etc. Mais quelle est leur ambition ou leur mission ou, je ne sais pas, leur visée pour notre pays? Mm-hmm. Vous avez des attaques qui sont régulières au nord de notre pays, ce que nous n'avions jamais imaginé pour le Togo, parce que on estime, et c'est vrai, que le Togo, c'est un pays qui chérit la paix, qui fait tout possible pour maintenir cette paix-là, malgré les problèmes, les difficultés. Et dans la sous-région, le Togo a toujours travaillé à ce que la paix soit le bien le plus protégé. Aujourd'hui, ces menaces ne sont pas forcément endogènes, mais la menace terroriste, elle est d'abord exogène, elle vient donc de d'autres frontières que les nôtres. Mais quand même, on sait qu'au nord de notre pays, dans la région et dans la préfecture de Lac Bengal et certaines préfectures environnantes, chaque jour, les populations font face à ces terroristes-là. Les exactions se passent, les attaques, les poses de bombes artisanales, etc., font beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela? Parce que la paix aussi, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons avoir toutes les richesses du monde, mais on ne peut pas en bénéficier parce qu'on n'a pas la tranquillité du cœur et de l'âme. Donc, je crois que nos autorités, les institutions régionales et sous-régionales font un travail formidable, mais le reste, c'est d'abord nous, en tant que population, d'informer, de sensibiliser, de ne pas rejoindre ces groupes, parce que certains sont tentés, pour des raisons quelconques, de rejoindre ces groupes et de les aider à mieux connaître le territoire. Donc, il faut que nous puissions sensibiliser ces gens-là et aussi aider nos forces de l'ordre.
Et faire tout que ces terroristes n'élisent pas domicile dans surtout. Notre pays. On envoie les dégâts un peu partout au Burkina, au Mali, quand de larges pans du territoire de ces pays échappent à l'État. C'est un danger. Germain, nous savons que c'est un phénomène transfrontalier et la lutte doit être de la même dimension, mais la lutte ne peut pas seulement être militaire. Il y a également des besoins d'ordre social, économique des populations, et c'est en cela que les médiateurs de la République ont eu beaucoup de courage de relever l'absence de l'État en différents endroits de nos États ou l'insuffisance de l'État. Et le Togo, qui en est conscient, a élaboré ce plan d'urgence pour la région des savanes, qui a un certain montant en termes de milliards, avec les projets portant sur les pistes rurales, les pistes de désenclavement, les infrastructures socio-culturelles, éducatives et économiques, avec le souhait, comme le disait tantôt Thierry, que cet argent que le Togo va mettre dans ce plan d'urgence de la région des savanes aille effectivement aux infrastructures et aux projets.
Oui, je crois qu'il y a plus de 250 milliards qui sont destinés à ce programme d'urgence dans les savanes. C'est en réalité des projets qui devaient être exécutés, mais qui ont été concentrés sur quelques années pour qu'il y ait plus d'impact, parce que la région est particulièrement menacée, parce que la pauvreté est un terreau fertile donc pour le terrorisme. Donc il faut agir vite pour que les populations, et en particulier les jeunes, ne se laissent pas embarquer donc dans cette histoire. Et c'est ce qui est en train d'être fait, vous l'avez dit, sur le plan des infrastructures, les hôpitaux, sur l'eau potable aussi, les écoles, l'énergie, l'électricité, tout ça. Donc plusieurs localités et dans les savanes donc bénéficient donc de ces projets là et il y a une avancée assez intéressante qui a apporté quand même un plus dans l'amélioration des conditions de vie des populations dans les savanes. Donc ce n'est pas tout, même sur le plan scolaire aussi il y a un projet sur lequel nous allons revenir dans notre prochaine parution, qui consiste à améliorer et à rendre l'éducation plus équitable en faveur des élèves donc des régions du nord du Togo, particulièrement donc dans la savane. C'est dit que l'État a compris que la lutte ne peut pas être purement militaire. Donc il faut des actions, il faut que l'État revienne, le chef de l'État. Vous l'avez même constaté lors du dernier conseil des ministres, donc à Palimé est revenu dessus. Quelques semaines aussi avant, il était allé...
À Palimé, c'était plutôt le dernier séminaire
gouvernemental. Il y a quelques semaines, avec les représentants de l'État, les préfets et les directeurs des services centraux de l'État, il avait dit la même chose. Il faut qu'on sente la présence de l'État, qu'il y a de l'impact. Et donc aujourd'hui, c'est clair qu'aux côtés donc de l'action militaire qui est engagée, il faut aussi résoudre le problème de pauvreté et de développement donc dans ces localités. C'est ce qui est en train d'être fait. Il faut saluer l'aide américaine des 100 millions de dollars destinés à ces 5 pays africains. Mettons qu'on sait que le phénomène est beaucoup plus endurci, un peu plus au nord, au Burkina. Et au Mali, malheureusement, ces deux pays sont exclus de cette aide-là pour plusieurs raisons. Mais on aurait vraiment souhaité, comme vous l'avez dit, que la lutte aussi soit collective, parce que c'est ce pays-là qui nous envoie les terroristes ici, parce que ce sont des pays dans lesquels les armées n'ont pas la capacité de maîtriser. Et donc, c'est terroristes ont beaucoup plus des assises dans ce pays qu'on prenait le sud du Burkina. L'armée est totalement absente et donc quand les gens viennent attaquer le Togo, ils replient impunément donc, dans cette partie du pays. Donc je pense que si les partenaires veulent aider, malgré les coups d'État et les positions politiques des nouvelles autorités au Burkina et au Mali, il faudrait quand même revenir à travailler avec ces États-là.
Merci. La sécurité, la lutte contre le terrorisme, mais également l'assistance sanitaire et humanitaire dans son ensemble. C'est ce que nous abordons à présent, mais en commençant par ce qui s'est fait au CHU Kara en début de semaine, ou en tout cas il y a quelques jours, quand Ecobank, la banque panafricaine Ecobank, et a offert une enveloppe de $500,000 américains autour de $300 millions de francs CFA, c'est pour aider à installer un centre d'hémodialyse à Kara. Jusqu'à ce jour, il n'y a que le CHU, le Métocoin, Sylvain Olympio, hôpital public, qui dispose d'un centre d'hémodialyse. Alors quelqu'un qui aurait des problèmes à Sokoné, à Sotouboua, à Kara, à Dapaon, est obligé de descendre à Lomé. Dieu merci, on va en créer un deuxième au CHU Kara, d'un coût de $300 millions de francs CFA que nous donne Ecobank avec l'assistance technique du PNUD. Mais dans ce même temps, c'est le Togo qui vole au secours de la Turquie. Nous savons que le 6 février dernier, la Turquie, tout comme la Syrie, a été frappée par un séisme, tremblement de terre en français facile. Alors le bilan pour la Turquie est assez énorme. 45 000 morts, 105 000 blessés, 214 000 bâtiments détruits. On peut avoir une idée de toutes ces personnes qui se retrouvent à la rue. Donc le Togo qui participe avec ses moyens, $1,5 million que nous offrons à la Turquie, c'est bien. Sauf que Thierry, à la Turquie, nous offrons $1,5 million et dans le même temps, nous recevons $500,000 pour équiper le CHU Kara en centre d'hémodialyse.
Oui, ça m'arrache le sourire. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais revenir un peu sur les médiateurs de la République. Je crois que c'est ceux de l'UEMOA qui étaient à Lomé et qui ont parlé de terrorisme. Moi, je les accuse parce que là, ils jouent au médecin après la mort. Pourquoi? Je m'explique. Alors, vous prenez les différentes crises que nous avons dans ces pays aujourd'hui attaqués par les terroristes. C'est, Olivier avait dit tantôt que chez nous, le problème n'est pas endogène. Ailleurs, c'est endogène. Quand il y avait des crises qui couvrent, malheureusement, ces pays disposent de ces médiateurs-là, mais ils n'ont jamais œuvré à taire ces problèmes-là. Je donne un peu l'exemple de la Guinée. Kakonde voulait coûte coûte avoir son troisième mandat, ni le médiateur, ni la CDAO, personne n'était arrivé, l'UEMOA, personne n'était en mesure de lui dire, monsieur, vous ne pouvez pas faire plus que deux mandats. Et il s'est entêté, et aujourd'hui, on a les résultats. Et quand il s'agit également de Blaise, à l'époque, il voulait coûte coûte se maintenir. Après, on a vu ce que ça a donné. Il y avait ces médiateurs, mais ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, si le Burkina se retrouve dans ce problème-là, c'est parce que il y avait cette crise-là liée au départ de Blaise et après, c'est les terroristes qui prospèrent dans le pays. Bien avant, il n'y avait pas ça.
Mais Thierry, mais tu parlais du silence complaisant ou coupable des médiateurs par le passé, mais il y a l'actualité. Au Sénégal,
voilà.
Où il est prêté à Macky Sall l'intention réelle ou virtuelle de vouloir aller à un troisième mandat avec toutes les conséquences.
Voilà.
Déjà, les premiers effets qu'on voit, et le médiateur du Sénégal Je ne sais pas s'il était à Lomé, voilà, mais on ne le sent pas beaucoup dans la question là actuellement au Sénégal.
C'est quand il y aura problème qu'ils vont se réunir, se partager quelques dollars dès qu'ils ont fait un séminaire ou quoi, je ne sais quoi. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut affronter les problèmes quand ils surgissent et je crois que on va éviter pas mal de problèmes à nos différents pays. Alors, concernant la question des centres...
L'assistance humanitaire...
Non, je veux parler plutôt de... Ouais, sanitaire. Ouais. Des centres d'hémodialyse. Mais c'est bien d'avoir ces centres. Je donne juste l'exemple de ce que nous avons ici au CHU Sylvanus Olympio. Ça, vous ne pouvez pas imaginer que, bien qu'on ait ce centre-là, quand vous arrivez et que vous devez passer par le traitement de dialyse, les médecins, en complicité avec d'autres centres privés ici à Lomé, décide de vous envoyer dans ces centres privés, alors que ici on a un centre avec plusieurs lits qui ne sont pas occupés. C'est ça le drame de notre pays.
Tu es allé visiter les machines et les salles d'hospitalisation.
Écoutez, il y a quelques jours, j'ai perdu l'une de mes cousines dans cette affaire-là. Parce que on a passé des coups de fil et que finalement, les messieurs étaient obligés de prendre ma cousine en charge au centre ici. Et finalement, je ne sais pas comment ils se sont arrangés et j'ai perdu ma soeur comme ça. Le centre est bien là, avec des lits non occupés, avec tout le dispositif qui va avec ces lits-là. Les places étaient libres, mais les gars, ils vous disent qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de possibilité qu'on vous prenne en charge. Ici au CHU, c'est pas une solution.
Les machines étaient peut-être en panne.
Voilà, et ils vous disent, on va vous trouver une place à Clicamé ici. Comment vous pouvez comprendre ces choses-là?
Qui est un centre privé.
Oui. Comment vous pouvez comprendre ces choses-là? Mais si le colonel qui est en charge de cet hôpital est à l'écoute aujourd'hui, ou encore ses services sont à l'écoute, il faudrait qu'on puisse cesser ces choses. Et voilà qu'on veut mettre un autre à Cara. Dieu seul sait si Cara, au CHU Cara, il y a ce centre-là, si les patients qui ont besoin de ce traitement-là auront accès véritablement à ce centre. Donc, il faudrait que nous puissions changer notre... Non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Maintenant, concernant le cas de la Turquie. Bon, c'est vrai, le Togo veut aider la Turquie. Nous aussi, nous recevons des aides. Maintenant, on ne sait pas trop dans les 1, combien de dollars vous avez dit. Je crois que ça fait 900 millions, quelque chose comme ça, si on fait la conversion.
Il y a cette personne qui arrondit ça à 1 milliard.
voilà, si on fait la conversion. Bon, je ne sais pas si c'est un don en nature du cash que le Togo va donner ou bien, je ne sais pas trop.
Un don de sac de maïs.
Je ne sais pas. Donc,
je ne sais pas si c'est en espèce
voilà,
ou en nature, mais c'est un don.
C'est un don, nous en recevons, okay. Nous voulons donner parce que nous en avons, bon, tant mieux.
Bon, Germain, en même temps, cette semaine, c'est très bien, hein, en même temps que nous aidons la Turquie,
on nous aide.
EcoBank nous aide aussi.
Oui, généralement, c'est nous qu'on aide, hein, c'est très rarement qu'on aide les autres.
Et nous aussi, nous commençons.
Je savais que c'est la deuxième fois hein, depuis...
Je crois la Côte d'Ivoire a commencé avant nous, avant d'aider la Turquie.
C'est la deuxième fois depuis 12 ans. Que le Togo aide. La première fois, c'était en 2011, quand il y a eu pratiquement la même catastrophe naturelle au Japon, le tsunami. Mm-hmm. Le Togo avait donné 200 000 dollars à la Croix-Rouge japonaise. À l'époque, les gens avaient crié ici, estimant qu'on n'avait pas l'argent pour donner aux Japonais. Mais on oublie que les Japonais nous envoient des centaines de tonnes de riz. Chaque, au moins deux fois dans l'année, hein, sous le Kennedy Rone, qui nous fait beaucoup d'argent. Donc, c'est un geste quand même que les Japonais n'ont jamais oublié. Toutes les fois qu'ils rencontrent l'Afrique, où les autorités togolaises y diffusent cette image-là pour montrer la solidarité de l'Afrique envers le Japon. Donc, je crois qu'il ne faut pas être riche pour donner. Je le disais la dernière fois, nous, quand on parle de solidarité, on ne regarde que les riches. C'est les riches qui doivent donner aux pauvres. Mais un pauvre aussi peut partager son pain ou son beignet avec un autre pauvre. Il faut donner. Et puis, ça fait plaisir aux riches aussi quand on leur fait des cadeaux. Moi, j'ai fait une fois un cadeau, une petite chemise au fils de mes patrons, à qui que je salue au passage. Mais je l'ai vu, il était comme un enfant. Il était tellement heureux.
Je me dis, mais tu as apporté un cadeau à mon fils, Germain, c'est pas possible.
Bon, c'est quelqu'un qui a de l'argent.
Il y a eu retour sur
l'investissement. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'aide. Mais il était, j'ai vu son expression, je n'en revenais pas. Donc c'est dire que les riches aussi, Erdogan, c'est vrai, il y a eu un appel à une mobilisation internationale pour soutenir la Russie, mais c'est pas un pays pauvre. La Turquie, ils s'organisent aussi. C'est vrai que ça a été un coup dur à leur économie. Mais il ne faut pas attendre que ce soit les riches qui donnent. Les pauvres aussi doivent commencer à donner un peu parce qu'ils ne vont pas mourir. Nous avons un budget de presque 2000 milliards aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons une capacité de mobilisation assez importante. Et sortir 900 millions, c'est vrai, on a besoin des appareils à 300 millions que EcoBank est obligé de nous offrir. Mais ceux qui en donnent aussi n'ont pas réglé tous leurs problèmes. Aller aux États-Unis, aller en Allemagne, il y a des pauvres partout. Ils ont plein de besoins. Mais ils donnent. Donc, je crois que la solidarité, on doit la prendre en Afrique. C'est vrai, on a d'autres problèmes, on aurait pu les régler avec. Mais je pense que stratégiquement, c'est une bonne chose. Et je suis sûr que le Togo gagnera avec la Turquie beaucoup plus que les 900 millions dont on parle aujourd'hui.
Les chrétiens connaissent l'histoire de cette veuve qui a offert tout ce qu'elle avait à l'église. Elle a été bénie par le Seigneur, sûrement qu'elle a eu aussi retour sur investissement. Et puis, il y a également cette sagesse qui dit que, Olivier, personne n'est jamais trop pauvre pour ne pas faire de cadeaux, de même que personne n'est jamais trop riche pour ne pas recevoir de cadeaux.
Non, je suis totalement d'accord avec Germain. Et il faut que nous aussi nous puissions montrer qu'on peut donner. Il ne faut pas être les éternels assistés du monde. Où c'est toujours à l'Afrique qu'il faut donner ce que nous devons manger, il faut recevoir, même pour, c'est pas pour se soigner, il faut tendre la main. Des pays ont des catastrophes, ont des difficultés, ils ont fait appel à l'aide internationale. Donc, dans cette, le mot international, le Togo aussi fait partie de la communauté internationale. Donc, donner 900 millions par rapport à ce que nous avons reçu de la Turquie, nous avons reçu des années. Je crois qu'il n'y a pas comme une mesure. Donc, ceux qui ont tendance à critiquer cette action n'ont pas compris qu'il n'y a pas plus pauvre, ou bien on n'est pas pauvre jusqu'à ce qu'on puisse soit donner le peu que nous puissions aussi avoir. Nous avons toujours quelque chose à donner à l'humanité et faisons le fort aussi pour le faire.
Merci toujours pour la coopération, Olivier, Thierry. Tu sais que il y a un nouveau partenariat que le Togo met en place avec le système des Nations Unies. Et cette semaine, on a vu l'Assemblée nationale rencontrer une forte délégation du système des Nations Unies. Les journaux comme L'Éveil de la Nation, L'Union, Togo Matin nous en parlent aujourd'hui. Et on a découvert que... ce nouveau type de partenariat couvre la période 2023-2026. C'est une enveloppe de 245 millions de dollars, autour de 150 milliards de francs CFA. Au cours de la rencontre entre l'Assemblée nationale et le système des Nations Unies, il a été fait état de la mise en œuvre du plan stratégique de développement institutionnel de l'Assemblée nationale, la présentation du nouveau cadre de coopération du système des Nations Unies, de même que l'identification des nouveaux axes de coopération entre l'Assemblée nationale et le système des Nations Unies.
Je me rappelle,
Gapola avait fait une dépêche de ce sujet.
Je crois que c'est une bonne chose, cette démarche du système des Nations Unies au Togo avec les parlementaires. Cette législature-là, je crois que a souvent eu ces genres de travaux avec les partenaires du Togo. Et une fois encore, c'est le système des Nations Unies qui est allé échanger avec les élus du peuple pour leur faire connaître les nouvelles mesures prises pour accompagner le Togo sur une période de 5 ans, si je ne me trompe. Et c'est une bonne chose que ces élus du peuple-là soient informés, sensibilisés, afin qu'ils puissent repercuter donc l'information au niveau de leurs différentes bases, et c'est une bonne chose. Et puis ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que toutes les actions menées par le gouvernement sont forcément passées par la l'Assemblée nationale. La preuve, le budget chaque année est voté par les députés avant sa mise en œuvre. Donc, c'est très important que les députés maîtrisent les différents mécanismes de financement ou d'accompagnement des partenaires financiers et techniques du pays, afin que quand les projets atterrissent sur leur table, ils puissent se retrouver. Parce que quand on prend le budget, c'est un exercice purement technique. Des fois, si vous n'êtes pas outillé sur la question, on peut beau parler, vous n'allez rien comprendre. Mm-hmm. Donc, je crois que ces genres d'échanges-là participent au renforcement de capacité de ces députés-là qui sont en train de passer leur dernier mois, puisque bientôt, il y aura eu des élections législatives. Mm-hmm. Donc, ils ont encore quelques mois et ils ont besoin de renforcer leur capacité pour mieux comprendre toutes les actions menées par le gouvernement.
Olivier Thierry qui parle de budget 2023. Justement, ce budget a prévu, entre autres taxes, la taxe sur le véhicule à moteur.
Ah, ça, et
nous recevions des experts, des agents de l'OTA qui nous ont rappelé que selon la loi, c'est à partir du demain 1er avril, que le contrôle de la fameuse taxe sur le véhicule à moteur va commencer. Je présume que vous qui en parlez, vous êtes déjà en règle.
Pas encore.
Olivier. Bon,
pas forcément, mais
en tout cas, il y a encore quelques heures.
On est appelé à en parler.
Je rappelle que nous sommes le 31 mars et il est 11h57 minutes.
Non, il y a une expression de loi qui dit dura lex sed lex. C'est-à-dire la loi est dure parfois, ça fait mal, mais on ne peut pas en déroger. C'est la loi, donc on est obligé de nous conformer à ce que la loi prévoit. Tant bien même que ça fait mal parfois à nos poches, on ne peut pas donc en déroger. Donc il y a la loi fiscale qui est là et qui nous impose de payer la taxe sur les véhicules à moteur. Et depuis le mois de janvier, jusque la date butoir, c'est le 1er février. Donc en réalité, et c'est, on le rappelle seulement au retardataire. Sinon, ce n'est pas un rappel que la loi existe. Elle existe déjà. Donc, c'est aux retardataires qui ont oublié que cette loi existe et nous faisons partie malheureusement. C'est à nous qu'on rappelle que cette loi existe. Donc, nous allons faire l'effort de se conformer à la loi, même si on aurait bien voulu que ça soit plutôt... Et comment il a calqué sur l'année. Donc, ça veut dire que lorsque vous payez en février, c'est parti pour février ou avril prochain. Bon, maintenant, ce n'est pas le cas. Lorsque vous êtes en retard, vous payez en décembre. Dès le mois d'avril suivant, vous devrez encore payer. Donc, et nous, en tant que population, je me fais le porte-parole de ces gens-là pour plaider au niveau de l'OTR, de faire en sorte que bon, on puisse quand même trouver un palliatif.
Toi-même, tu as dit l'OTR ne fait que appliquer.
Non, ça c'est normal.
Ce qu'on lui a donné comme texte.
On peut faire des.
Donc les plaidoyers doivent aller au niveau de l'Assemblée. de toute façon, Germain, comme l'ont dit les experts de l'OTR à nos micros, réglementairement, c'est à partir du demain 1er avril que le contrôle de la TVM va commencer. Ceux qui auront été surpris en flagrant délit de retard devront non seulement s'en acquitter, mais avec pénalité.
Oui, tout à fait. Et puis l'autre délai aussi qui est important pour les entrepreneurs, c'est le dépôt du bilan aujourd'hui.
Ouais,
c'est le dernier délai.
Entrepreneurs, comme disait la publication de Togo Réveil.
Si vous ne le faites pas, vous avez
une pénalité. Parce qu'il y a discuté avec mon financier sur la question.
Ça va être chaud, donc on a jusqu'à 17h30 pour aller déposer ce bilan-là, parce que parfois la pénalité atteint ce qu'on devrait payer comme impôt pour toute l'année. Donc il faut le faire. Alors sur la TVM, tout comme les autres, on va faire l'effort de ne pas tomber dans le contrôle et de le faire bien avant que le contrôle ne nous surprenne, parce que cet texte-là ne revient pas totalement à l'OTR. Elle est presque intégralement reversée à la SAFER.
Pour l'entretien du réseau routier.
Voilà, réseau routier. Donc on en a besoin, on a de belles routes aujourd'hui.
Il faut qu'elle soit aussi belle, aussi résistante et qu'on en construise d'autres. C'est la contribution citoyenne, comme l'a dit Olivier, c'est difficile. Surtout quand on arrive à la fin du mois où le mois paraît plus long que 31 jours. Il faut payer la TVM, c'est chaud, mais hein, il faut le faire. C'est le civisme, la citoyenneté, il faut contribuer. Et donc, ceux qui ont des voitures, ils peuvent déjà remercier Dieu d'avoir les voitures.
Les motos aussi. Hein.
La TVM sur les motos est payée une fois pour toutes à l'achat de la moto.
Et il faut donc pouvoir payer. Et je crois que c'est difficile, c'est dur par moment.
Merci, il est midi, passé de une minute. Nous avons parlé de comment migrer ou émigrer légalement et en toute sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nous avons parlé de l'agenda de coopération développement avec ses visites du président de la Banque mondiale et de la secrétaire d'État française avec quelques activités au menu de leur agenda. Et puis on a terminé avec cette obligation fiscale de s'acquitter de la taxe sur les véhicules à moteur. Le contrôle commence demain. Mais pour nous rassurer, Olivier, on ne va pas nous arracher la voiture demain parce qu'on n'a pas payé la TVM. Seulement, c'est une pénalité qui va s'ajouter à ce que nous devrions payer.
Absolument, c'est une pénalité qui va s'ajouter. Et l'OTR aussi est ouvert à des discussions, à des négociations avec les contribuables. Donc, il ne faut pas croire que l'OTR est totalement fermé, hermétique aux cris et à nos voix. Donc, faisons l'effort et faisons preuve donc de courage. Allons et payer, allons s'acquitter ceux qui ont des arriérés, allons négocier pour peut-être sur des échéances afin que nous puissions être de bons citoyens civiques qui contribuent. Ah, les gens se demandent, mais tout ce que nous mobilisons, ça sert à quoi? C'est aussi une question.
C'est un autre débat.
Parfois, mais c'est un autre débat, mais comprenons que nous vivons dans un pays où il y a la sécurité. La sécurité aussi, c'est de l'investissement. Il y a des routes, c'est de l'investissement. Il y a beaucoup de choses, c'est de l'investissement. Donc, on ne va pas forcément s'attendre à ce que l'hôtel vienne nous détailler tout ce à quoi
il y a une séparation des rôles. L'hôtel collecte.
Et donne.
S'il faut savoir comment nos sous sont gérés,
c'est pas l'OTR.
L'endroit le plus indiqué, c'est pas l'OTR.
Non, pas du tout.
Ok. Par contre, l'endroit le plus indiqué que les auditeurs en sachent davantage, c'est le moment. Vous pouvez appeler sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne, déjà bonjour.
Bonjour, Fass.
Oui.
C'est Monsieur Farah, journaliste.
Monsieur Farah.
Faram. Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Je salue tout le plateau.
Merci.
Et je remercie la dame qui est revenue des États-Unis. Est-ce que nous voulons que les gens fassent, ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils reviennent de temps en temps nous éclairer, nous donner des opportunités pour que les affaires marchent pour le développement du Togo.
Oui.
Bon, merci beaucoup. Et je voudrais le numéro de Germain qui est à côté de vous, là. Germain Pouli. C'est son ami Philippe Faram.
Ah, vous connaissez?
Ouais, ben on se connaît très bien.
Eh bien, si vous avez oublié le numéro de Germain, lui sûrement ne vous a pas oublié, il va vous appeler incessamment. La façon dont il sourit, merci, ça veut dire qu'il vous reconnaît. Merci beaucoup.
C'est un confrère journaliste. Hein.
Oui.
Il était animateur à Radio Galaxy, on a fait nos débuts ensemble.
Oui.
Okay. Il travaillait également en la
presse. Oui. Notre micro, oui.
Voilà. Merci. Non, je vais m'arranger pour lui envoyer mon numéro.
Arrange-toi le plus tôt possible. Juste merci beaucoup. Un autre auditeur. Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Antoine.
Antoine?
Dagoué.
Antoine Dagoué.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Oui. Je viens d'apprendre.
Nous vous écoutons pas toujours très bien. Je vous prie de vous arrêter, de vous immobiliser avant d'appeler.
Pardon?
Je vous prie de rester immobile avant de nous parler, comme ça on pourra mieux vous écouter.
D'accord. Je voulais dire que je vais faire un bon pour la.
Oui.
Ça ne m'étonne pas. Bon, c'est très bon. Monsieur Sasse.
Oui.
pardon, actuellement, si votre patron, celui qui a créé,
je ne vous reçois pas très bien. Oh, il pour vous répondre, il faut que nous écoutions distinctement vos paroles. Peut-être que vous allez revenir en ligne. Oui, un autre, bonjour. Allô? Ah, il n'a pas sûrement le retour. Bonjour, l'ami en ligne. Ok, en attendant le prochain auditeur, Fafa. Ok, un auditeur qui s'annonce, oui, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Oui, c'est à propos du don du Togo à la Turquie.
Oui.
Et ceux qui s'étonnent, je ne sais pas pourquoi ils s'étonnent. Il y a un scout qui passe avant d'ADD là. Il y a un journaliste qui disait, lui n'a jamais entendu le Togo faire un don. Voilà la réponse. Nous, on ne prête pas, on donne parce qu'on en a. C'est tout. Quand vous voyez votre frère en difficulté, il faut le sauver.
Oui.
C'est ce que le Togo a fait. Il n'y a pas polémique là-dessus.
Merci.
Oui, merci.
Et il semble qu'il y a plus de grâce, de bénédiction dans ce qu'on donne que de ce qu'on reçoit. Alors, il vaut mieux donner pour être béni que de toujours s'attendre à recevoir. Un autre auditeur, oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Ici,
oui.
Voilà. Bon, j'ai l'impression que on nous plume. On nous plume, on nous appauvrit, et puis vous relayez ça, et puis vous rigolez là-bas, pour l'histoire de la TDM, là. Est-ce que c'est normal qu'on paye cette taxe? Cette énième taxe? Non. Hein? C'est pas normal. Et puis vous rigolez, moi, ça me... Je demanderai oui.
Et nous préférons prendre les problèmes dans la bonne humeur.
Dans la bonne humeur, oui. Ah, d'accord. Votre santé. Moi, je veux qu'on me rembourse la TVM qu'on m'a piqué là. On m'a pris ça et puis on m'a pris plus le péage parce que j'ai pas d'autoroute pour qu'on me prenne le péage si cher là. En plus, il y a la Banque mondiale qui vient. Elle vient nous faire quoi? Elle vient nous construire les routes, les hôpitaux, tout le reste, et nous distribuer, nous faire distribuer nos allocations ou quoi? Hein? Est-ce qu'on en a besoin? Elle vient pour quoi? Pour ramasser ces billes qu'on nous a prises. Et puis, vous avez parlé de Trump alors, non? Vous avez parlé de Trump? Vous avez parlé de Trump pour émigrer aux États-Unis?
Oui,
on était... Si on était bien gouverné là, qui c'est qui irait aux États-Unis? Personne. Moi, je ne voyage plus de toute façon. J'ai tellement voyagé que je ne voyage plus. Je serais bien gouverné, on alternerait tout le temps, périodiquement et raisonnablement. J'aurais plus jamais besoin de partir. Et puis voilà. Sinon, Trump, c'est un bon type. Hein.
Mm-hmm.
Et quand il était là, et moi, je l'aimais, moi, je suis Trump. Parce que il y avait plus de djihadistes, il a quitté le temps et l'Occident flottait dans le vide et tout le reste.
Bon, c'est votre liberté d'apprécier la gouvernance de Trump. Merci aussi, c'est très utile à chaque fois que vous entrez en ligne. Et sûrement d'autres qui attendent au postillon. Alors, Fafa, ok, priorité à l'auditeur qui vient d'entrer en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Abonné.
Oui, commis.
Oui, monsieur Sass.
Oui.
Le rôle dans lequel se retrouve l'OTA, la mobilisation, sans nous faire le compte rendu, moi, ça ne me sied pas. La dernière fois, je leur ai demandé de nous faire la situation 2020, 2021, 2022. Ils n'ont pas pu le faire. Mais nous, population, devons continuer par cotiser. Et je ne suis pas d'accord sur cet élément-là.
Mm-hmm.
Deuxième approche, vous le dites si bien, comme si une lettre à la poste, nous ne sommes pas contents de payer la TVM.
Comme il rassurez-vous, moi-même, je ne suis pas content. Mais je m'y vois obligé parce que la loi me l'impose.
Oui, quand la loi impose et que la loi devient une escroquerie, il faudrait qu'on revoie le plus vite possible cette loi-là. Escroquerie dans quel sens? Nous payons déjà l'entretien routier sur le litre d'essence. Nous payons l'entretien routier sur les questions de péage. Pourquoi encore le payer sur la TVM? Et voyons même le montant de la TVM.
qui est doublement ou bien triplement plus fort que la visite technique. Et on nous parle encore qu'on prendra des pénalités. Tout ça là rime, comment dirais-je, à nous imposer des impôts un peu partout. Non, ça ne va pas.
Merci, Komi. Mais je pense que hein, le plaidoyer ou bien le lobbying hein, contre la TVM, ça doit être à des instances supérieures. Pourquoi pas à l'endroit des députés ou du gouvernement. Parce que Thierry, je ne voudrais pas défendre l'OTR, mais on a donné une mission à l'OTR et qu'il essaie de l'exécuter.
L'OTR n'a rien à faire dedans. Lui, il a un cahier de charges et il l'exécute. Sinon, c'est difficile pour nous tous de payer cette TVM à plus de 40 et quelques mille. Donc, c'est difficile. Mais ouais. On n'a pas le choix, on est obligé de passer par là.
Merci. Le suivant en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est le bonjour, c'est M. Antoine Zedagouin.
Ok.
Sinon, M. Sasse.
Oui.
C'est ce que je voulais dire, que bon, le Togo a fait un don à la Turquie, c'est déjà bon. C'est bon pour moi parce que vous, M. Sasse, vous êtes en train de travailler là-bas. Celui qui appartient au canal FM, là. Si aujourd'hui il a un malheur dans sa famille, est-ce que vous n'allez pas assister?
Oui, nous avons la solidarité au village.
Merci. Donc, c'est le pourquoi le Togo aussi a assisté. Okay. Donc, même si vous donnez 20 000 francs, c'est déjà une assistance pour lui. Donc, moi, il a dit quelque chose en tête. C'est nous, le Togolais, qui avons toujours l'inondation au Togo ici. On crie chaque jour. Nous sommes en mois de pluie, c'est ça. Si ça nous dépasse, peut-être la Turquie aussi va nous faire un don. Donc, on ne souhaite pas, mais bon.
Merci. Ça. Et sûrement que, comme Germain a partagé avec nous, quand nous donnons aux riches aujourd'hui, sûrement que demain, c'est 3-4 fois notre don qui va nous revenir.
Merci
beaucoup. Le suivant déjà. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, allô.
Allô, c'est
plus
comme la
vie. Vous voulez parler un peu plus fort dans le microphone directement?
Oui, oui.
Mm-hmm. Allô? Ah, les aléas du direct. C'est lui qui revient, bien un autre. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Mon frère. Bon, pour les taxes sur le VM, là, moi, je pense que c'est trop. Parce que, d'abord, nous payons sur l'essence. Les taxes. Et sur le marché, il y a aussi des taxes sur des choses, tout cela.
Oui.
C'est trop. Je crois que c'est encore un plus ça.
Oui. Donc la TVM, c'est une taxe de trop, selon vous?
Je vois ça.
Ok.
C'est un vrai radio.
Ok. Mais d'ici qu'on change la loi, cher monsieur, vous et moi n'avons pas le choix, hein, sinon. Vous comprenez quand même.
Sur la route.
Oui.
On paie les taxes.
Sur la route, ah oui, les taxes de péage.
Oui, oui.
Oui, oui, oui.
On paie tout ça là. Hein? Bon, c'est pour l'arrangement de la voie, non?
Oui, c'est ce qui est dit.
Oui, et sur la taxe. Pour le moteur, c'est pour l'arrangement de la route aussi.
Toujours la même route?
Non, c'est trop. Combien de routes ont été arrangées dans ce pays? Moi, depuis, j'habite Kamalodo, aucune route des ruelles là-dedans n'ont même pas été chargée. Nous avons été obligés d'aller chercher des briques pour construire nos routes.
Bon, pour remplir certains trous.
Oui, oui.
Ouais.
C'est le sable.
Donc, vous êtes à Bekamalodo, non?
Oui, oui.
Oui, je vois un peu là. Et quand, avec les pluies qui s'annoncent, il va falloir s'armer de bottes pour venir chez vous.
Oui.
Ok. On viendra chez vous un jour, on va faire un reportage. Et peut-être on va animer directement le club de la presse depuis là-bas, inviter les experts de l'OTR, de la SAFER et du ministère de l'équipement. Comme ça, nous allons vivre la réalité tous ensemble, n'est-ce pas? Merci. Il faut toujours prendre les choses avec la bonne humeur, positivement, plutôt que de se laisser stresser davantage. Le suivant en ligne, bonjour.
Allô, M. Sack.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Kokou.
M. Kokou.
Oui.
Oui.
Et je voulais réagir par rapport au TVM.
Mm-hmm.
On nous oblige à payer. Et M. Comi l'a dit tout à l'heure, c'est taux de taxes. Et le prédécesseur aussi l'a dit, c'est taux de taxes. Est-ce que nous avons déjà été sensibilisés avant qu'on ne mette cette tasse à exécution? Non. On nous l'a imposé. Et c'est comme si nous, population togolaise, on accepte tout comme ça. C'est parce qu'on l'a accepté et ils continuent toujours pas à l'appliquer. Et si on réagit, je pense qu'ils vont essayer de revoir ça. Mm-hmm. Donc, comme vous l'avez dit, on attend que nos députés se prononcent. Qu'on voit ce qu'on peut faire.
Non, et pas seulement attendre que les députés. Non, il faut aller demander, il faut mener des actions de plaidoyer ou bien de lobbying au niveau des députés.
Et qui va le faire, monsieur?
Et vous et moi. Commencez, ouais. Je serai à vos côtés, puis les Germain, Thierry, Olivier viendront.
Il n'y a pas de souci, je passerai tout à l'heure.
Ok, je suis là. Commençons. Parce que le citoyen, c'est celui aussi qui a le courage de porter ses préoccupations. En veillant à ce que la loi soit respectée. Nous allons prendre le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, Saf Gao. Heureux que soit le dernier.
Ah, Richard depuis Copenhague.
Richard depuis Copenhague.
Ok. Vous avez migré là-bas en toute légalité au Danemark, non?
Oui.
Ou bien est-ce que vous êtes obligé de vous cacher le jour, ne sortir que la nuit?
Non.
Ok.
Non. Je vois que je suis un citoyen danois aujourd'hui.
Mm-hmm.
Ouais. Je suis très, très content pour notre soeur, pour le boulot qu'elle a là-bas aux États-Unis.
Mm-hmm.
On est très peu qui œuvrons dans ce sens. Et ma deuxième préoccupation, c'est le fait que le Togo fasse un don à la Turquie et puis que ça soit polémique. Je donne un exemple. Quand vous allez au village, quels que soient les moyens que vous avez, vous allez, un vieux, un paysan, vous donne des trucs d'igname, par exemple, ou bien le seul coq qu'il a.
Mm-hmm.
Quelle que soit votre fortune, vous vous sentez très heureux. J'en passe. Et bon, je m'arrête aujourd'hui.
Ok, merci. Donc, Richard.
Monsieur,
alors, quand vous revenez du Danemark, vous passez par le Maine, vous allez au village. Quand un vieux papa vous donne une calebasse de choucoutou, bien son coq, vous êtes content, n'est-ce pas?
Exactement.
Ok. Et en retour, c'est vrai que vous le témoignez votre gratitude par d'autres façons aussi.
Oui, mais aujourd'hui aussi, ici, je suis un entrepreneur. À des moments, je fais des cadeaux à mes chefs, ceux qui me donnent du boulot. Actuellement, je suis chez un grand patron. Il m'a toujours donné des chantiers à faire. Je lui fais ça gratuitement. C'est ma reconnaissance en retour.
Mm-hmm. Merci, je ne sais pas comment on dit merci en danois. Je sais qu'en allemand c'est danke. C'est comment?
Tausendtak.
Pardon?
Tausendtak.
Ok, j'ai entendu, c'est l'essentiel. Merci. Merci à tous les auditeurs qui ont pu entrer à ligne. Eh bien, Fafa, donc il y a eu, je crois, deux ou trois réactions, voire quatre sur les problèmes de l'immigration. Le dernier auditeur, c'est un compatriote qui vit au Danemark. Il revient souvent nous voir aussi, comme vous. Alors, sur le sujet, un petit rappel en une minute sur ce que vous êtes prêt à faire. Vous êtes prête à faire pour aider à voyager en toute sécurité aux États-Unis d'Amérique.
Okay. Encore merci. Merci pour l'invitation. Merci à tous les auditeurs.
Et auditrices.
Et auditrices, bien sûr. Ça fait vraiment plaisir d'être au retour au pays et essayer d'aider des gens comme moi qui ont grandi ici au Togo. iVisa, je l'ai créé avec l'intention d'apporter un plus à mon pays. Alors, Je suis là pour aider tous ceux qui veulent immigrer aux États-Unis dans la légalité. Comme je l'ai dit auparavant, l'éducation américaine est l'éducation la meilleure au monde. Les États-Unis...
Ah, d'autres pays diraient le contraire, hein?
Non. Les recherches ont montré que l'éducation américaine est la meilleure. Mm-hmm. Parmi les top 10 universités du monde, les États-Unis comptent 5. Mm-hmm. Okay? Il y a des universités qui ont formé des présidents et il y a beaucoup d'universités aux États-Unis. 50 États, plus de 4300 universités, beaucoup d'opportunités. Et s'il y a des gens au Togo qui voudraient... avoir cette éducation-là, je suis là pour les aider, pour les guider, et on va le faire dans toute la légalité possible.
Merci. Vous rappelez le contact?
Le contact, c'est le 90... Oh, I'm sorry. C'est le 91 36 24 79.
Encore une
fois? Le 91 36 24 79.
Comme ça, comme vous l'avez dit, il faut avoir un plan.
Il faut avoir un plan.
On vient chez vous pour avoir la procédure. Voilà. Mais vous avez oublié de dire qu'il faut avoir une poche également bien garnie avant d'aller aux États-Unis d'Amérique.
La qualité et le prix. La qualité et le prix. On veut une meilleure éducation, il faut investir. Comme vous l'avez dit sur le plateau, retour en investissement. Il faut voir le retour, pas l'investissement.
Merci Fafa. Et Germain, ça aura pour lui une minute pour une précision assortie de ton carton de fin d'émission.
Oui, non, précision, c'est juste pour saluer. Je parlais de quelqu'un qui était ému quand je lui ai fait un cadeau.
Le micro ?
Quelqu'un qui était ému quand je lui ai fait un cadeau, il vit une situation un peu difficile en ce moment. Mm-hmm. Je lui souhaite tous mes voeux de réconfort. Et puis mon carton va au maire du Golfe 4, à le monsieur Jean-Pierre Fabre, que je n'ai pas l'habitude de féliciter. Ah, peut-être qu'il est en pré-campagne électorale, mais aujourd'hui a démarré.
Il n'y a pas d'élection communale cette année, hein?
Pour son parti.
Ah, ok.
Pas forcément, voilà.
Okay.
Donc, il a initié une campagne foraine d'établissement des actes de naissance et des certificats
de nationalité.
Donc, aujourd'hui, au niveau du bas-fond du Collège Saint-Joseph, il y a de l'affluence. Les populations de sa commune sont très contentes. Et je crois que c'est ce que les uns et les autres doivent faire. Il ne faut pas attendre d'être forcément au pouvoir ou avoir beaucoup d'argent pour aider. Bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit, ça peut être une pré-campagne, mais il faut saluer l'action.
Merci. Carton vert à la commune Golf 4, son maire Jean-Pierre Fa, pour cette campagne foraine d'établissement de jugement supplétif. Thierry, combien de fois nous couvrons?
Oui, peut-être lancer cet appel-là à tous ceux qui ont un pan de responsabilité dans la gestion de ce pays. Faisons l'effort pour mieux servir les Togolais que nous sommes, parce que ça ne sert à rien que nous disons que nous n'avons pas ci et ça, maintenant quand nous en avons et que ça ne nous profite pas. Merci. Mm-hmm.
Là, c'est une parabole comme Jésus parlait. Ok. Que ceux qui ont des oreilles comprennent.
Entendent. Non, mais je crois que c'est dans la même lignée.
Olivier.
Un carton vert, bizarrement, à Dieu. Parce que parfois, nous avons le souffle de vie, nous sortons, nous venons. On se dit que ça va de soi, en fait. Mais ça ne va pas de soi. Il y en a des gens qui n'ont pas ce souffle de vie ou qui l'ont perdu. Donc, celui qui nous garde et nous donne ce souffle de vie, un carton vert à lui.
C'est un investissement que Olivier est en train de faire.
À qui ça? Avec Dieu. Ah, là, c'est bien. C'est le meilleur des investissements, d'ailleurs.
Eh bien, et puis j'oubliais, nous sommes le 31 mars, c'est le dernier mois de mars, le dernier jour du mois de mars consacré à la femme. Nous avons l'honneur d'avoir une femme aujourd'hui, Fafa Signon, c'est vous qui prononcez le tout dernier mot de l'émission.
Ouais, mon tout dernier mot serait félicitations à vous pour cette émission qui est vraiment enrichissante. Merci à tous les gens présents ici sur ce plateau et merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir pris leur temps et prêté leur oreille à Monsieur Sass. Merci à vous.
Nous nous renvoyons tous en week-end. Sûrement, il y a des gens qui sont frappés par un deuil. D'autres vont voyager. D'autres vont encore se reposer. Souhaitons que tout cela se passe bien. Et le lundi prochain, nous allons nous retrouver ici encore en bonne santé, dans la bonne humeur, pour continuer l'aventure du Club La Presse.